Bonjour et bienvenue dans Autour de nous, histoire d'aujourd'hui pour construire un meilleur demain. Le podcast dédié à l'économie circulaire en Suisse et au-delà. Je suis votre hôte, Christina Tavares de Bastos, et je suis ravie de vous présenter les idées, les innovations et les pratiques qui sont en train de transformer notre économie vers un modèle plus inclusif, durable et responsable. Dans Autour de nous, nous allons rencontrer des expertes et experts, des entrepreneurs, des chercheuses, des chercheurs et des activistes qui sont tous engagés dans la transition vers une économie circulaire et régénératrice. Nous allons discuter des avantages et des défis de ce modèle économique, ainsi que des meilleures pratiques pour le mettre en œuvre dans différents secteurs et contextes. Nous espérons que ce podcast vous inspirera à réfléchir à votre propre rôle dans la construction d'un avenir plus juste et durable, et que vous trouverez des idées et des solutions pratiques pour agir autour de vous. Pour cet épisode d'Autour de nous, nous allons explorer le fascinant monde des emballages, ces éléments de la vie quotidienne auxquels on pense si peu, mais qui ont un fort impact sur nos vies. Impact positif d'un côté, pour la conservation et la protection des aliments et la sécurité sanitaire notamment, et négatif sur l'environnement en contribuant à la pollution plastique, à la surconsommation des ressources naturelles et à la production de déchets difficiles à gérer. Pour parler de cette thématique, j'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui Christian Niels Schwab, directeur général du Centre de l'alimentation et de la nutrition, plus connu sous son appellation anglaise Integrative Food and Nutrition Center, de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Après une carrière très diversifiée dans de grandes multinationales et en tant qu'entrepreneur, Christian rejoint le centre en 2018 et son ambition est de maximiser l'impact positif de l'EPFL sur la transformation des systèmes alimentaires vers des alternatives plus saines et plus respectueuses de l'environnement. Cela en travaillant dans trois domaines clés, l'emballage durable, la nutrition personnalisée et la numérisation des systèmes alimentaires. À cette fin, le rôle du Centre de l'alimentation et de la nutrition est d'assurer une interface dynamique entre l'EPFL et les partenaires externes, de stimuler le transfert de technologies et de sciences et, in fine, de maximiser l'impact positif de l'école sur notre société et environnement. Bonjour Christian.
Bonjour Christina.
Bienvenue dans Autour de nous.
Merci, merci pour l'opportunité.
Christian, nous sommes aujourd'hui au Centre de l'alimentation et de la nutrition où tu travailles. Dis-moi concrètement, qu'est-ce que vous faites ici? En quoi consiste votre travail?
Alors, pour répondre à ta question, je dois contextualiser un petit peu. Déjà, pourquoi est-ce qu'une école comme l'EPFL a un centre de l'alimentation? C'est lié à la nature des enjeux auxquels l'humanité va faire face, fait déjà face aujourd'hui et va faire face dans les années à venir en termes d'alimentation. C'est une réalisation qui est relativement récente, qui depuis quelques années est maintenant vraiment débattue, mais les systèmes alimentaires, c'est-à-dire la façon dont on produit, transforme, transporte, prépare la nourriture, la gestion des déchets, est un contributeur majeur des gaz à effet de serre et donc du changement climatique. Donc il est nécessaire et urgent qu'on développe des solutions qui soient plus adaptées aux besoins du futur.
Effectivement, c'est un enjeu majeur d'aujourd'hui. Comment est-ce que tu décrirais une de tes journées type au centre?
Alors, le propre de rôle tel que le mien, c'est que les journées ne se ressemblent absolument pas. Et c'est d'ailleurs ce qui rend le travail aussi intéressant. C'est beaucoup des interactions. C'est rencontrer la communauté scientifique, beaucoup, les chercheurs, les 370 chercheurs de l'EPFL, pour comprendre un petit peu quelles sont les possibilités et les limites de la science, de la technologie dans les domaines qu'on a évoqués. C'est rencontrer des industriels qui sont les vecteurs par lesquels on peut avoir un impact. Quand on parle d'une solution, encore faut-il la déployer pour qu'elle ait vraiment un impact à l'échelle. Et les industriels peuvent faire partie de la solution en ce sens, pas que du problème. Et puis des autres acteurs, ça peut être les politiciens, ça peut être d'autres instituts de recherche, que sais-je. Au final, l'idée, c'est de mettre les gens en réseau, des gens qui ont identifié un problème, des gens qui peuvent faire partie de la solution, et leur permettre, dans un mode collaboratif, de développer les solutions de demain ensemble.
Tu as parlé d'industriels. Alors, moi, je me demande quelles sont les principales opportunités et les défis associés à la mise en œuvre des principes de l'économie circulaire dans l'industrie de l'emballage.
Pour moi, le premier, il est vraiment au niveau culturel. C'est-à-dire, il faut dépasser la binarité un petit peu stérile dans laquelle l'industrie a été bloquée pendant si longtemps. C'est-à-dire, une opposition entre est-ce que je dois être profitable ou respectueux de l'environnement? Est-ce que je dois être compétitif ou socialement responsable? Eh ben, les amis, on n'a plus le temps d'opposer les deux. Il faut trouver des solutions qui permettent de réconcilier les impératifs économiques avec les impératifs écologiques et sociétaux.
Et tu penses que les principes de l'économie circulaire pourraient être une façon d'aider justement de concilier ces deux mondes, profit et bénéfice pour l'environnement?
Absolument, absolument. S'il y a une chose qu'on peut apprendre de la nature, c'est qu'elle a une gestion des ressources beaucoup plus efficace, beaucoup plus intelligente. Et le mode extractif, linéaire de l'économie telle qu'on l'a connue depuis l'émergence du capitalisme, en gros, a prouvé les limites, est responsable des limites auxquelles on est confronté aujourd'hui. Et la circularité, c'est l'alternative. Il faut circulariser ce qui a été linéaire jusqu'à aujourd'hui.
Ça m'amène tout de suite à la prochaine question, parce que justement, quand on parle d'économie circulaire, on pense éco-conception des produits. Donc la prise en compte de l'ensemble de leur cycle de vie visant à minimiser leur impact environnemental, c'est en partie ce que vous faites au Centre de l'alimentation et de la nutrition, notamment avec la conception d'emballages biosourcés et des emballages dits intelligents ou du smart packaging. Selon toi, comment est-ce qu'on peut optimiser la conception des emballages pour atteindre la circularité?
Alors, ce qui est généralement reconnu comme la solution ultime, et je vais élaborer, c'est des solutions qui soient biosourcées et biodégradables. Biosourcées, ça veut dire trouver une source de polymères qui viennent de la biomasse, de l'agriculture, du bois, des algues, que sais-je. En gros, de tous ces organismes qui ont capturé le CO2 de l'oxygène pour en faire de la matière, prendre sa matière, et lorsque l'emballage sera utilisé, qu'il soit relâché, peut-être dans l'atmosphère, ou brûlé, ou recyclé dans d'autres cycles. Mais dans tous les cas, laisser les polymères fossiles là où ils sont, à savoir sous le sol, et créer une circularité en prenant tout ce qui a été le résultat de la photosynthèse, en faire des emballages, que ça reparte dans l'atmosphère, que ça refasse la photosynthèse. Et là, il y a un cercle vertueux qui se dessine. C'est tout l'enjeu, mais c'est pas simple. Quand on parle circularité au sens où nos auditrices et auditeurs le comprennent, quand on parle projet de recherche, on parle souvent d'une approche systémique, c'est-à-dire considérer les choses dans l'ensemble de leur cycle de vie et après la mort.
Est-ce que tu peux me donner un exemple d'emballage biosourcé?
Pour que quelque chose soit un emballage pratique, il faut qu'il ait des propriétés barrières très fiables, une résistance à l'humidité, une résistance à l'oxygène, qui sont une barrière à l'oxygène, résistance aux contaminants chimiques, etc. Plus un emballage est efficace, plus c'est difficile de le dégrader derrière. Donc c'est vraiment l'enjeu auquel les scientifiques sont confrontés. Trouver quelque chose qui ait des propriétés de barrière efficaces, mais qui puisse se dégrader facilement juste derrière. Donc faire un mur très solide, mais qu'on puisse facilement démolir derrière. Ça, c'est le grand enjeu. Alors, il y a beaucoup d'exemples qui ne sont pas encore au niveau de maturité et par voie de fait ne sont pas encore commercialisés à grande échelle. Il y a des startups, beaucoup de startups hein, qui travaillent sur ça. Il y a des solutions à base d'algues, il y a des solutions à base de déchets de bois où on sépare la cellulose, l'hémicellulose et la lignine pour en extraire les composants qui peuvent devenir des choses comme ceci. Il y a beaucoup aussi la tendance d'aller traiter les déchets de plastique pour en refaire des polymères vierges qui soient réutilisables pour l'environnement. Donc ça, c'est les grandes pistes. Soit des solutions de recyclage, soit des solutions travaillant sur des filières, des déchets qui ne sont pas propres à la consommation humaine pour en faire des emballages.
Est-ce que tu as des exemples d'emballages qu'on trouve déjà actuellement dans le commerce?
Alors, malheureusement, il n'y a pas d'histoire de succès que je puisse vous partager. Il y a plusieurs initiatives qui sont déjà, mais dans des applications relativement niches qui sont disponibles. Des gens qui utilisent, je l'ai mentionné tout à l'heure, des algues, des gens qui utilisent le bambou ou le maïs ou des résidus de telle ou telle biomasse. Mais si c'est encore niche, il peut y avoir une combinaison de raisons. D'une part, peut-être que la matière première n'est pas disponible en quantité suffisante à proximité. Prenez le bambou, pas des quantités inépuisables de bambou disponibles en Suisse. Les algues non plus. Soit c'est une question de disponibilité de la biomasse, soit c'est une question de Parce qu'un des grands problèmes, c'est que le plastique, c'est extrêmement bon marché. Ce qui est une vraie problématique en soi, la notion de juste prix, les plastiques d'origine fossile ne payent absolument pas leurs externalités, c'est-à-dire tous les dégâts négatifs sur l'environnement, sur la santé, ne sont pas inclus dans le prix. Donc, dès qu'on compare ces alternatives biosourcées, comme on dit, en termes de prix, elles sont extrêmement prohibitives par rapport au plastique. Donc, il y a un grand problème par rapport à ça. Il y a une solution que tout le monde connaît, c'est ces fameux sacs biodégradables pour notre compost. Mais même ça, c'est éminemment polémique parce que déjà, ça ne se dégrade pas dans un compost à l'arrière de son jardin. Il faut des composts industriels pour y arriver avec des degrés de température supérieurs. Et ça ne se dégrade pas complètement, ça produit des microplastiques qui sont parfois considérés comme encore pires que le plastique en lui-même parce qu'on ne contrôle plus, ça se diffuse dans la nature. On a retrouvé maintenant des plastiques partout, dans nos poumons, dans les systèmes sanguins, même dans le placenta des enfants. La problématique des microplastiques, c'est vraiment complexe en soi.
En t'écoutant, j'ai l'impression qu'on est encore un petit peu loin d'avoir des emballages biosourcés, durables, qui puissent être utilisés par les industriels. Enfin, est-ce qu'on est vraiment loin ou est-ce qu'on va vers la bonne voie?
Alors, ce que j'ai constaté, c'est une évolution dans les approches. C'est-à-dire, il y a une réalisation maintenant que l'idée un peu naïve qu'il suffisait, je mets des guillemets, de trouver le polymère magique qui allait se substituer au pétrole et qui allait sauver l'ensemble des problèmes. Je crois qu'on réalise aujourd'hui que c'est plus compliqué que ça. Et je reviens à cette notion d'approche systémique. Je vais faire là un petit inventaire de compétences requises. Ça va être compliqué. J'invite nos auditrices et auditeurs juste à retenir la complexité, pas le détail. Pour trouver un emballage qui soit à même de répondre aux attentes du futur, il faut maîtriser quoi? Il faut maîtriser les biomasses. Qu'est-ce que c'est qu'un arbre, une algue, une bactérie, une levure, un virus? D'où viendront les polymères de demain? Il faut maîtriser la bioréaction. Comment est-ce que je vais produire ces nouveaux polymères à grande échelle, de façon économique, que ce soit compétitif? Ça reste de l'emballage, donc il faut des propriétés de barrière physique, chimique appropriées. Donc il faut la science des matériaux reste importante. Mais, et ça doit être approprié à l'outil de production existant. On ne va pas construire des nouvelles usines juste parce qu'on a changé d'emballage. Donc, il faut maîtriser ce qu'on appelle la rhéologie, comment traiter ces matériaux, en faire des films qu'on puisse souder, qu'ils soient étanches. Mais comme ça doit être approprié à un cycle de vie complet, il faut que je maîtrise la dégradation, la biodégradation, les interactions avec les sols, les politiques des États en termes de gestion des déchets, l'investissement des États en infrastructures pour la collecte et le traitement des déchets. Il faut que je maîtrise le consommateur. Quelle sera son acceptance pour des formats d'emballage nouveaux? Comme je disais, c'est complexe. Je viens d'énumérer peut-être 15 spécialistes différents qu'il faut qu'on fasse travailler de concert, derrière une vision commune, un agenda commun. Et c'est là où je vois une évolution qui, moi, me donne de l'espoir. C'est que, au niveau de la communauté scientifique, il y a maintenant cette reconnaissance que c'est pas juste un laboratoire de sciences des matériaux qui peut solutionner les choses. Il faut travailler avec des gens des sciences humaines, des économistes, des choses comme ceci. C'est cette notion de systémique qui n'est pas facile à mettre en place. Fédérer tous ces gens derrière une vision commune, c'est ce que j'appelle, et vous m'excuserez l'anglicisme, j'ai pas de bon mot français, ce que j'appelle du stewardship. C'est l'aptitude à mobiliser, énergiser des experts différents, complémentaires, derrière une vision commune, ou à tout le moins derrière un projet commun. Mais je vois des avancées dans ce sens.
Maintenant, j'ai un petit intérêt professionnel quand même à connaître un petit peu ce qui se passe dans le domaine dans le secteur du jus de fruits, parce que Opaline, on vend des jus de fruits et nos contenants, c'est des bouteilles en verre. Selon toi, quel est le contenant le plus durable pour une boisson?
Alors, non, la réponse est non, je n'ai pas la réponse, mais la méthodologie pour répondre à la question, elle est connue, c'est les cycles de vie, la méthodologie des cycles de vie, qui, depuis la production d'emballage, ses coûts d'utilisation et les coûts, encore une fois, de la gestion de l'emballage utilisé, c'est l'ensemble de ces coûts en termes d'impact environnemental qui va répondre à cette question. Donc, j'ai pas la réponse. J'ai eu un cas récemment où quelqu'un voulait lancer une boisson avec un profil vertueux. Et la conclusion, c'était que les emballages type Tetra Pak en carton avaient la meilleure empreinte sur l'ensemble. Ce qui peut paraître contre-intuitif. Il y a encore quelques dizaines d'années, on voyait le papier, ces emballages à usage unique comme terriblement négatifs. Eh bien, aujourd'hui, qu'on maîtrise tout, qu'on calcule tout, ben, on se rend compte que des formats réutilisables peuvent avoir une empreinte pire. de recollecter, de physiquement retransporter les choses, de les nettoyer, etc., peut avoir au final une empreinte pire. Je mets des conditionnels partout parce qu'il faudra vraiment voir au cas par cas appliquer cette méthodologie qui aujourd'hui est très robuste. Il y a 20 ans, elle était très débattue, quels étaient les critères d'évaluation, les pondérations des choses. Maintenant, c'est une base décisionnelle assez robuste et reconnue.
Nous avons fait notre analyse de cycle de vie de nos produits il y a 3 ans maintenant, et effectivement, notre plus grande empreinte carbone, elle vient de nos contenants, donc 49% de nos émissions de CO2 viennent des bouteilles en verre. Alors effectivement, maintenant, nous sommes en train de faire toute cette recherche, de voir quel est le contenant le plus durable. Et ça rejoint un peu ce que tu dis, il n'y a pas de réponse unique.
J'aimerais juste faire une petite aparté. L'emballage n'a pas bonne presse, bien entendu. Et beaucoup, on a tous vu ces images choquantes d'îles flottantes, de déchets plastiques au milieu de l'océan. On a tous souffert de ces plages qui étaient dégradées par des bouteilles en plastique, des capsules, que sais-je. Et à juste titre. Ceci dit, j'aimerais juste rappeler que l'emballage a été créé pour une raison qui est de protéger la nourriture. Aujourd'hui, et vous le savez peut-être, 30% de la nourriture produite n'est jamais consommée. Ça représente 1,3 milliard de tonnes de déchets de nourriture par année. Je ne sais pas si vous arrivez à vous représenter à quoi ressemble une montagne d'1,3 milliard de tonnes de déchets de nourriture. Moi, je ne peux pas, c'est plus grand. Donc, pour nuancer, j'aime formuler les choses ainsi. C'est pas l'emballage le problème, c'est l'emballage une fois utilisé. Donc, l'emballage peut être un mal nécessaire qui, au final, a un impact positif, même si en lui-même il l'a pas. S'il arrive à réduire les déchets inutiles, il peut avoir une contribution positive. Il faut pas l'oublier.
Est-ce que les solutions sont, selon toi, scientifiques et technologiques ou plutôt plus larges et holistiques?
Alors, c'est une très bonne question. Et quand tu travailles pour les PFL, les gens peuvent facilement penser que tu es ce qu'on appelle un techno-optimiste, à penser que la technologie sera nécessaire et suffisante à tout solutionner. Alors, par cette définition, je suis plutôt un techno-sceptique. Je crois qu'il y a beaucoup d'autres choses à mettre en place, et en particulier, j'y reviendrai dans le cadre de l'emballage, mais un cadre législatif et incitatif, une éducation appropriée, un investissement en infrastructure, l'allocation du capital, les projets collaboratifs, les consommateurs, consommateurs, il y a plein de choses. Ceci dit, vu l'ampleur, la complexité et l'urgence des problèmes auxquels on fait face, je pense que la technologie aura un rôle à jouer. Maintenant, pour revenir plus spécifiquement à la question de l'emballage, il y a souvent 3 axes qu'on évoque. Réduire, réutiliser ou recycler. Réduire, c'est réduire à la source l'usage qu'on fait des emballages. Et là, je crois que on est tous choqués en permanence par l'usage excessif à des fins strictement marketing qui est fait de l'emballage. Il y a du plastique partout. On est dans une explosion de l'utilisation du plastique, alors même que ces méfaits sont débattus ouvertement. Donc là, il y a vraiment un problème de cadre législatif et incitatif qui fait que ça puisse rester économiquement viable de faire ces choses obscènes. C'est ridicule. Donc réduire, pour moi, cette sobriété heureuse que certains invitent de leur vœu, c'est l'axe principal. Il faut revenir à un usage plus modéré, plus raisonné de l'emballage au sens large. Réutiliser, on l'a vu avec le cas que tu évoquais des bouteilles en verre pour les jus de fruits, c'est pas toujours aussi évident que ça. C'est pas, ça peut être une fausse bonne nouvelle, donc il faut le faire avec discernement. Mais réutiliser, oui, absolument. Et puis recycler, alors là, c'est le volet qu'on a débattu en début de podcast, c'est trouver des solutions biosourcées et biodégradables qui permettent d'arriver à une circularité de l'emballage.
Eh ben, très bien. Je trouve parfait qu'on finisse avec les 3 R de l'économie circulaire. C'est vraiment un beau mot pour la fin. Mais t'es pas encore sorti d'affaire parce que j'aimerais te poser quelques petites questions plutôt personnelles. Alors maintenant, on va te mettre en situation. Tu pars en randonnée pour boire pendant ta randonnée plusieurs heures, plusieurs jours. Tu prends A, une gourde, B, une bouteille d'eau en PET achetée dans le commerce, c'est tu bois directement dans les fontaines, pas besoin de contenant.
Fontaine, avec l'idée que ça va renforcer mon système immunitaire.
C'est top, pas besoin de gourde. Est-ce que tu bois quand même parfois dans les petits ruisseaux ou oui. T'es pas aventurier à ce point?
Ça arrive. S'il y a rien que je vois qui me rebute, j'hésite pas à le faire si c'est assez haut en montagne. Encore une fois, l'idée que ça nous met en relation avec notre environnement et que ça développe nos défenses.
Ah, génial, je savais que je faisais bien de poser cette question. Autre thématique, quels sont tes aliments anti-âge préférés?
L'amour.
Oh, c'est beau.
Et le rire.
Magnifique. Et dès qu'ils se mangent?
Beaucoup les M&M's. Non, mais écoute, la réponse va être très classique. C'est les fruits et les légumes. C'est les choses qui soient le moins transformées possible, qui s'avèrent être le plus saines et le plus incarnées comme nourriture et souvent le plus goûteux.
Effectivement. Et pour la fin, vraiment la fin, un ou deux adjectifs pour te décrire.
Un optimiste invétéré et quelqu'un qui aime réconcilier les opposés.
Merci beaucoup, Christian.
Merci, Christine.
Merci d'avoir écouté Autour de nous, le podcast sur l'économie circulaire en action. À bientôt pour une nouvelle histoire inspirante pour construire un meilleur demain.